présenter rapidement. Donc moi, je suis le docteur Bryden, hein, donc je suis psychiatre, je suis anthropologue aussi, et je suis chef du service de réanimation psychosociale de l'EPSMR. On existe en fait depuis 10 ans, on s'est construit au départ autour d'une unité d'hospitalisation, qui est devenue l'unité de soins de réadaptation, sur laquelle nous avons pu accueillir ce qu'on a appelé des cas complexes. C'est-à-dire que c'était en fait des situations cliniques qui nous étaient envoyées par nos collègues du sanitaire, et chargé à nous, autour de ces situations complexes, d'essayer de faire un accompagnement vers une réinsertion optimale dans la cité. Donc en fait, on a fait ça pendant 10 ans, et nous sommes actuellement dans une phase un peu de transition, où nous pensons et nous espérons, et enfin, je pense qu'on peut quasiment l'annoncer, évoluer vers un CAR ou un CARE, un centre d'appui sur le rétablissement, où en fait nous quitterons nos lits d'hôpital pour aller travailler au plus près des situations, c'est-à-dire en écologie. Donc là, ça fait un peu notre projet de centre d'appui vers le rétablissement. Voilà, je pense que vous avez pu lire la définition. Voilà, donc si en fait on reprend la définition d'Anthony du rétablissement, qui est quand même un concept clé lorsqu'on fait de la réhabilitation psychosociale, je pense qu'il est difficile en fait de le dissocier en fait d'une perspective en fait qui est celle de l'empowerment. L'empowerment, donc, c'est un mot qui commence à être à la mode, hein. Donc moi je me souviens, ça ne me rajeunit pas, mais il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais fait une présentation de l'empowerment à une époque où on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant on le retrouve un peu à toutes les sauces. En fait, l'empowerment, c'est un terme anglais, vous l'avez compris. En fait, pour le traduire, il faut le comprendre comme étant en fait un processus de reconquête de pouvoir, en tout cas de reconquête de pouvoir sur son destin, sur sa vie. Donc c'est un concept clé aussi dans le rétablissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir permettre ce processus qui va permettre donc à un individu ou à un groupe d'individus de reconquérir, voire de conquérir un pouvoir social et de l'autonomie sur sa trame biographique. C'est-à-dire que les personnes que nous accompagnons, qui ont des troubles psychiques sévères et durables, en fait, ont souvent perdu pas mal de pouvoir finalement sur leur destin et sur leur capacité à pouvoir écrire leur vie en faisant des choix. Donc le rétablissement dans cette perspective, ça doit être compris en fait comme un processus qui doit être pensé comme étant un processus individuel, unique, nous dit Anthony. En fait, c'est un chemin qu'une personne va devoir trouver pour lui permettre d'accéder, malgré tout, à une certaine qualité de vie et à un rôle social valorisant dans la communauté, dans la société dans laquelle elle évolue. Donc, dans ce processus un petit peu de reconquête un peu de sa destinée, nous tous, hein, que ce soit dans le sanitaire, le médico-social ou le social, on peut avoir un rôle à jouer, on peut avoir un rôle d'accompagnant de ce processus. Par contre, on ne peut jamais, je dirais, le décréter ou le... Enfin voilà, enfin, on ne peut pas le prescrire, quoi. C'est-à-dire que c'est un processus qui est d'abord vécu par la personne qui va devoir cheminer un petit peu dans son propre... à sa façon, vers le rétablissement.
Si je peux vous casser, vous interrompre.
Allez, cassez-moi. Allez-y, n'hésitez pas.
C'est-à-dire dans le processus...
C'est-à-dire... Oula. Il y a trois processus. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire dans le processus d'insertion, de participation de l'individuel, comme dit le docteur Brandon.
De l'individuel, c'est-à-dire le caractère de chair humaine, de famille, d'enfant, de parent. C'est ça qu'on prend dans notre association à vive main, à vive tête et à vive pied quand il faut cogner à toutes les portes. Et la loi de 2005 dit que l'handicap est un agent économique, il provoque des services autour de lui, il provoque des envies de travailler chez l'individu, il provoque des envies de participation, des envies de fonder lui-même des cellules familiales, des cellules associatives, des cellules commerciales, parce qu'il y en a qui veulent travailler. Et que nous, dans l'association, comme c'est très individuel le troupe chichique, c'est pas collectif le troupe chichique, c'est très individuel. C'est pour ça que le docteur Brandon dit qu'on a du mal à s'inscrire dans un processus d'accueil et d'entraide. C'est-à-dire, on offre à ces personnes des camarades comme lui qui dit « moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça », qui dit « tiens, qu'est-ce qu'on te propose ? As-tu un logement ? Profites-tu des caractères d'aide sociaux, une allocation, une aide à logement, une famille d'accueil. C'est ce caractère-là que la loi de 1901 a donné une pulsion chez les personnes qui sont de fragilité sociale. On ne va pas donner des caractères sociaux, on va dire, quand on est faible, c'est tout. Quoi. Et puis, voilà. Et voilà, dans l'association, on essaie de trouver un vivier, un réservoir pour que ces personnes puissent voilà, ressurgir. Voilà.
Ok, je peux reprendre le micro, monsieur Jean. Voilà, donc ça, je crois que donc, pour repartir un petit peu sur justement le rétablissement comme un processus qui va permettre à des individus ayant des troubles psychiques sévères et durables de retrouver un rôle social valorisant dans la communauté, je crois que c'est important de se rappeler que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et que la communauté, elle n'est pas forcément thérapeutique en tant que telle, hein, et qu'elle n'est pas forcément toujours accueillante. J'invite pour cela à relire un certain nombre de données que nous avons à la fois dans le domaine historique, hein, sur l'histoire. Bon, il faut relire toujours hein, Michel Foucault, le relire dès qu'on a 5 minutes, hein, qui nous a bien expliquer comment les asiles s'étaient construits comme des lieux d'exclusion, enfin, à un instant donné dans nos sociétés. Alors après, je crois qu'on n'a aucune...
C'est pas trop cassé, mais allez, je vais faire content. Parce que j'ai parlé d'individualité, de personnalité et de groupe psychique. C'est qu'une personne est très sensible à son environnement et que, voilà, il est dans le bain de la société, il est touché par toutes les flèches qui s'y trouvent, et voilà, quoi. Vous dites que la société n'est pas chargée de soigner tout le monde. Voilà.
Alors, l'histoire, l'anthropologie aussi, hein, qui nous rappelle qu'il n'y a pas simplement dans la société occidentale que les personnes qui présentent des troubles psychiques sévères et durables sont vulnérables et à risque de se trouver soit exclues, hein, soit mis de côté. Donc j'invite pour ça... dans la zone, hein, si on va à Madagascar, hein, en fait, il y a des pratiques de ligotage qui sont quand même développées, hein, qui permettent de mettre de côté un peu les personnes identifiées comme ayant des troubles psychiques. Et au niveau sociologique, hein, j'aimerais simplement, sans vouloir inquiéter quiconque, rappeler qu'un certain nombre de données nous montrent que les soins en psychiatrie sont de plus en plus ordonnés, c'est-à-dire... fait de façon contrainte. Il y a une augmentation quasiment exponentielle, notamment des soins pour péril éminent, et des soins en fait sont contraintes. Donc en fait, je crois que le rétablissement, ce n'est pas un processus, je dirais, naturel qui va de soi, et la communauté n'est pas toujours thérapeutique en tant que telle. Donc je crois que c'est un petit peu là où le mouvement de la rééducation psychosociale a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se constituer comme étant. Elle va accompagner, je dirais, le processus du rétablissement en mettant à disposition des personnes ayant des troubles psychiques sévères et durables des outils qui vont lui permettre d'accéder, je dirais, en étant accompagné vers le rétablissement. Ah, voilà, j'ai perdu un peu. Vous voulez pas m'interrompre un peu là, parce que je vois que ça me permettrait de...
Voilà. C'est là que le docteur perd sa balle.
Voilà.
Donc il ne perd pas la tête.
Pardon, excusez-moi, c'est pas évident, c'est là, excusez-moi.
Voilà. Donc en fait, dans ce que je voulais dire, merci M. Fugion, ça m'a permis de retrouver un peu, parce que j'ai mal écrit le truc là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit, je dirais, le champ dans lequel on va intervenir, que ce soit le médico-social, le social ou le sanitaire, on peut être des facilitateurs de ce processus du rétablissement, je dirais chacun de notre position. Donc le mouvement de la réhabilitation psychosociale, en fait, il va se proposer, c'est un mouvement qui est plutôt au départ porté par la psychiatrie, par la santé mentale, c'est un peu une évolution progressiste, un petit peu de la psychiatrie et de la santé mentale, et c'est un mouvement qui va se situer un peu à l'articulation entre différents champs, donc le champ médico-social et le champ social, pour essayer pour tenter en fait de proposer un environnement qui va être suffisamment sécurisant et suffisamment à même de favoriser le rétablissement. Donc pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la réhabilitation psychosociale, il faut comprendre que en fait vous allez avoir à la fois un savoir-faire qui va se constituer d'outils qui sont des outils spécifiques qui vont vous être présentés juste après notre intervention avec M. Juan. Vous allez voir qu'il y a des outils, des techniques en fait, hein, qui existent, qui permettent de faciliter le rétablissement. Mais c'est surtout, je pense, et c'est peut-être plus important, c'est surtout un savoir-être. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut adopter une posture un peu réhabilitative. C'est-à-dire ça, c'est une posture qui ne s'apprend pas dans les bouquins. Je pense que c'est quelque chose vers lequel on peut cheminer à travers son rôle professionnel. Souvent, dans le mouvement de la réhabilitation, c'est des personnes qui, au bout d'un certain temps, n'ont plus accepté justement d'être des agents de l'enfermement, d'être des agents du contrôle social, et qui ont essayé de proposer un autre modèle, qui soit un modèle peut-être plus respectueux de certaines valeurs humanistes qui pouvaient être les leurs. Donc je pense que cette posture réhabilitative, elle ne peut pas être faite, hein, on ne peut pas faire comme si. Hein, les personnes qu'on accompagne s'en rendent compte tout de suite.
Ils ne veulent plus le faire, ils ont arrêté de passer en fait. C'est vrai, vous pouvez s'y passer un peu.
Voilà, donc. Il faut que je retrouve, là, voilà. Voilà, bon, de toute façon, ça tombe bien, j'ai presque fini. Non. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi important dans le rétablissement, dans la réhabilitation psychosociale. C'est ce que nous rappelle Marianne Farkas, hein, que nous avons eu l'honneur et la chance d'accueillir dans notre service ici à La Réunion, qui est professeure en réhabilitation psychosociale à Boston, et qui nous a bien expliqué en fait qu'il y avait parfois une disponibilité pour la réhabilitation psychosociale, qu'il y avait une disponibilité pour le rétablissement. Et que en fait, lorsque ce mouvement apparaît, il faut qu'on soit prêt pour s'en saisir et pour permettre à la personne d'avancer. Donc plus il y aura de monde formé au rétablissement, plus il y aura de monde formé à la réhabilitation psychosociale, plus les gens auront des chances de rencontrer une oreille attentive lorsqu'ils seront dans cette disponibilité-là. Donc je crois que c'est important de le rappeler, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'améliorer la formation et la diffusion, à la fois théorique, mais aussi pratique, et de posture en réhabilitation psychosociale. Donc je vous remercie d'être venu, et je laisse le micro, là, c'est moi qui le laisse, à Monsieur Juan. Voilà. Donc ça, c'est assez réel, hein, ce genre de choses, hein, vous voyez. Hein, normalement, lorsqu'on est psychiatre, il n'y a personne qui vous interrompt comme ça, on vous écoute, on fait « mais oui, bravo », mais voilà, donc ça, c'est assez réel, ça, c'est justement.
J'aurais un gros compliment. C'est-à-dire qu'il faut éviter les personnes qui se trouvent dans les couloirs.